Biographie de Penn Suite. Parti Yip et en politique des lois très sévères avaient été promulguées contre les catholiques romains par le Parlement britannique en 1582. L'une d'elles infligeait une amende de 20 livres par mois pour absence des églises paroissiales et jours fixés pour le culte divin, et une autre, adoptée peu après la découverte de la trahison de la conspiration des poudres en 1605, laissait au roi le choix d'exiger 20 livres par mois, ou bien l'ensemble des biens mobiliers et les deux. Les persécuteurs des amis, échouant dans leurs efforts pour réprimer la société naissante par les mesures cruelles qu'ils avaient déjà prises, eurent recours à ces lois, qui répondirent au double objectif d'opprimer cruellement les amis et de mettre de l'argent dans les poches de leurs oppresseurs. En Angleterre, le Parlement proposa une loi qui rendrait ces lois applicables uniquement à ceux qui refuseraient de prêter le serment d'allégeance et de suprématie, lequel était, en fait, un serment abjurant le papisme et niant le pouvoir du pape d'absoudre les sujets britanniques de leur allégeance à la couronne. Par ce moyen, disait-on, les lois ne s'exerceraient que contre les catholiques romains et les autres dicides seraient libres. Mais comme les Quakers ne pouvaient prêter aucun serment, ce projet de loi les mettrait dans une situation pire que jamais. Ils seraient classés avec les catholiques romains et les jésuites, et l'on pourrait prétendre qu'ils refusaient de reconnaître leur allégeance en tant que sujet britannique. Penn, en tant que représentant des Quakers, fit appel au Parlement, présenta des pétitions et plaida devant une commission en faveur d'un léger amendement par lequel les Quakers donneraient leur parole au lieu de prêter serment, et seraient soumis aux mêmes peines en cas de parjure que s'ils avaient été sous serment. La vieille accusation selon laquelle il était un jésuite déguisé était manifestement très répandue à cette époque, car une grande partie des deux discours qu'il prononça devant la commission est consacrée à protester contre cette accusation et à déclarer que lui et tous les Quakers étaient, au sens le plus vrai du terme, des protestants nullement ennemis de la couronne et du gouvernement, mais au contraire désireux de soutenir le gouvernement, pourvu qu'on leur permît de le faire d'une manière approuvée par leur conscience. Il réussit devant la Chambre des communes. Ils acceptèrent sa suggestion et adoptèrent le projet de loi, avec une clause permettant aux Quakers de faire une affirmation au lieu de prêter serment, mais avant que le projet ne puisse être adopté par la Chambre des Lords, le Parlement fut dissous. Il semblait impossible que les Quakers aient la moindre chance, et durant l'été de cette année-là, 1678, cette créature extraordinaire, Titus Oates, prétendit avoir découvert le « complot papiste ». Les Britanniques sont un peuple courageux, mais, même à une époque récente, l'idée d'une invasion française les a plongés dans une panique que d'autres nations jugent ridicule, et, à des périodes plus anciennes, la suggestion d'un complot jésuite suscitait parmi eux une agitation plus grande encore. Oates, mû par un besoin insensé de notoriété, profita de ces deux sources de panique et raconta une histoire prodigieuse de ce qu'il avait appris lorsqu'il était parmi les jésuites. Le pape, disait-il, avait remis le gouvernement de l'Angleterre aux jésuites, qui avaient déjà délivré des commissions nommant des catholiques à tous les postes de l'État. Les hommes d'État britanniques actuels devaient être assassinés. Le roi devait être poignardé, empoisonné ou abattu avec des balles d'argent. Les navires sur la Tamise devaient être incendiés, et à un signal donné, les catholiques anglais devaient massacrer leurs voisins protestants. Et pour assurer le succès de toute cette œuvre diabolique, une armée française devait débarquer en Irlande. Oates était un ecclésiastique de l'Église d'Angleterre, indiscipliné et déshonoré. Il était devenu catholique romain, ou, du moins, en avait fait profession, et avait vécu dans certains collèges jésuites anglais sur le continent. Il y avait naturellement entendu toutes sortes de propos lâches sur les meilleurs moyens de convertir l'Angleterre, et comme la force était alors un moyen de conversion reconnu, il avait sans doute effectivement entendu des individus suggérer certaines des choses qu'il rapporta. Ces bribes de conversation, il les tissa en un récit cohérent d'un véritable complot organisé, destiné à être mis à exécution. Il rappela à ses auditeurs que Londres avait jadis brûlé et insinua que l'œuvre des jésuites se répéterait. Les circonstances favorisèrent son récit. Lorsqu'on rechercha les papiers d'Edward Colman, l'un des catholiques qui l'accusait, on découvrit qu'il venait d'en détruire la plupart, et que ceux qui restaient parlaient des grandes espérances que les romanistes pouvaient nourrir de la situation actuelle en Angleterre. Peu après, le magistrat devant lequel Oates avait témoigné contre Colman fut retrouvé assassiné dans un champ. Si l'on se souvient en outre que le peuple anglais, bien qu'il ignorât l'accord secret de Charlie avec le roi de France, le soupçonnait fortement qu'il se sentait certain de l'inclination du roi vers le romanisme, et savait que son frère, le duc d'York, héritier du trône, est effectivement devenu romaniste et avait épousé une femme catholique romaine. Si l'on se rappelle aussi qu'il avait à l'esprit la conspiration des poudres, œuvre de catholique, les conspirations catholiques contre la reine Elisabeth, et les cruautés du. Les prisons contenaient bientôt plus de papistes que de Quakers. Londres fut placée sous la protection de la milice, des canons furent rassemblés, des barricades préparées dans les rues, chaque bon citoyen protestant portait des armes sous ses vêtements, et des gardes siégeaient jour et nuit dans les caves sous le Parlement afin de sauver cet auguste corps d'être soufflé dans les airs. Cette étrange agitation survint alors que l'amendement proposé par Penn, permettant aux Quakers d'affirmer au lieu de jurer, était en instance au Parlement. Mais le Parlement s'occupait désormais d'exclure les lords catholiques romains de leur siège à la Chambre haute, d'écarter le duc d'York de son siège au Conseil privé et de mettre en accusation le lord grand trésorier pour haute trahison. Dans l'espoir d'arrêter cette mise en accusation de son lord grand trésorier, qui pourrait révéler son traité secret avec le roi de France, Charles dissout le Parlement en janvier 1779, avant que l'amendement de Penn ne puisse être adopté. Le massacre des catholiques soupçonnés de faire partie du complot commença alors. Oates devenait l'homme le plus riche et le plus puissant d'Angleterre. Les informateurs qui gagnaient chichement leur vie en traduisant Quake et Puritain en justice reconnurent en lui un maître de leur art. Ils ne tardèrent pas à découvrir toutes sortes de méchancetés papistes, des armées d'invasion se préparant à l'étranger et des assassinats secrets fomentés au pays, et Oates, pour rester leur chef, fut contraint d'ajouter de nouveaux prodiges à son récit initial. Dans cette confusion, Penn écrivit une lettre de conseil aux Quakers les exhortant à s'abstenir d'un esprit mondain. « Fuyez comme si votre vie en dépendait, dit-il, les pièges qui s'y trouvent, et montez dans votre tour de guet, le nom du Seigneur. » Il écrivit un livre sur la situation publique qui connut deux éditions et s'intitulait « Une adresse aux protestants de toute conviction ». La cause des temps troublés, disait-il, était la tentative de propager la religion par la force. Les papistes avaient une histoire de cruauté si terrible dans l'imposition de la religion qu'à présent le pays était en proie à une agitation de peur à leur égard. Il n'y aurait toutefois jamais de paix tant que les protestants n'abandonneraient pas la cruauté de la persécution qu'ils imitaient de Rome. Ravivez, dit-il, le noble principe de liberté de conscience sur lequel la réforme s'est élevée, car c'est en vain que nous espérons être délivrés des papistes tant que nous ne nous délivrons pas nous-mêmes du papisme. Cette contrainte exercée sur la conscience et cette persécution pour la religion sont la part du papisme la plus justement haïe et redoutée. Et si nous craignons ou haïssons le papisme pour sa cruauté, pratiquerons-nous la cruauté pour laquelle nous le craignons ou le haïssons? Il eut alors l'occasion d'argumenter de nouveau sur son sujet favori, la liberté religieuse, un sujet qu'il était toujours désireux de porter à l'attention du public. Il raisonna cette fois-là, il faut l'avouer sans grand éclat, en réalité, avec beaucoup de platitudes, sauf ici et là une phrase frappante. Dans un passage, il s'approche d'écrire un bon aphorisme, mais le gâche par trop de mots et d'idées intercalées. Dégagé de sa verbosité, cela donnerait « le zèle sans connaissance et superstition, le zèle contre la connaissance et intérêt ou faction, mais le zèle avec la connaissance et religion ». La première partie de son livre est consacrée à une tirade contre la méchanceté de l'époque, l'ivrognerie, la débauche, le luxe, le jeu, les jurons et l'irrévérence qui sont aussi, pense-t-il, des causes des troubles de l'Angleterre. La franchise très crue dont il se permet ici est intéressante comme commentaire sur les mœurs du temps. Après avoir lu tout ce qu'il dit, il nous reste l'impression que 200 en ont pas beaucoup ajouté en matière de luxe excessif. Penn lui-même vivait bien même lorsqu'il se trouvait dans sa colonie sauvage de Pennsylvanie. Il aimait les beaux meubles, les bons vins, une table bien garnie, les chevaux, les arbres fruitiers, les jardins fleuris et les bateaux pour voyager. Le luxe qu'il condamne devait donc être un luxe très au-delà de ce que sa carrière exigeait comme gouverneur de Pennsylvanie et agent d'influence à la cour. Penn cite des chaises en argent massif utilisées par les riches dans ses maximes. Il croyait à la bonne cuisine, mais, dit-il, la cuisine française ruinait l'Angleterre. Le goût naturel, dit-il, se perd dans la foule des ingrédients du cuisinier. Et dans l'ameublement des maisons, c'est une superfluité des plus inexcusables que de dépenser un domaine pour tapisser des murs, parer des cabinets, broder des lits, avec 100 autres pièces d'apparat sans profit, telles que vaisselle massive, riche porcelaine, tableaux coûteux, sculptures, boiseries, marqueterie et vitraux peints. De telles plaintes, cependant, ont été formulées de tout temps. L'âge d'or, tout autant que l'âge vertueux, est toujours dans le passé ou espéré dans l'avenir. La vérité, en réalité, est que les modes morales, bonnes ou mauvaises, changent sans cesse. Les différentes époques sont vertueuses en certaines choses et vicieuses en d'autres. La mode vicieuse particulière du temps de Penn semble avoir été la corruption de masse et la trahison réciproque parmi les classes supérieures, ainsi qu'une grossièreté obscène et téméraire dans le langage et les manières, pratiquées par les femmes autant que par les hommes. Ainsi qu'un comportement très promiscu des femmes des classes supérieures. Il est peut-être fastidieux de mentionner tant de détails sur les efforts de Penn en faveur de la liberté, mais c'est seulement par ces détails que son caractère peut être connu. Il fit suivre son adresse aux protestants d'une pétition à Guillaume, prince d'Orange, le célèbre Hollandais, qui, moins de 10 ans plus tard, devait devenir roi d'Angleterre et accomplir les réformes auxquelles peine usait sa vie. L'objet de la pétition était de demander un soulagement de la persécution pour certains des gens que Penn avait récemment visités à Creveld, sur le Rhin, et il reprend son ancien argument sur la ridicule inconsistance des protestants qui protestent contre les persécutions papistes alors que des protestants persécutent des protestants. Penn était par nature un homme public. Son profond intérêt pour la liberté religieuse et les grandes questions de politique publique, son éducation libérale, ses talents d'écrivain, sa longue expérience de la parole en public et de la conduite des intérêts de sa secte en des temps politiques orageux, sans oublier les relations de son père, l'amiral, l'orientaient naturellement vers la politique. Il aurait assurément pris une très grande part à l'art de gouverner si les principes Quakers ne l'avaient retenu. Les Quakers s'abstenaient presque entièrement de la vie politique, et dans bien des cas, même de voter, parce que la politique troublait la contemplation religieuse et impliquait de prêter et d'administrer des serments, ainsi que de cautionner la guerre. Mais ce n'était, semble-t-il, qu'une règle générale, qui admettait des exceptions lorsque c'était nécessaire. La dissolution du Parlement par le roi imposa une nouvelle élection, et avec les craintes du complot papiste et l'hostilité envers le roi pour ses penchants papistes, la lutte fut ardente et passionnée. Des questions de liberté religieuse et des questions touchant profondément les Quakers étaient en jeu, et Penn se jeta dans la bataille avec enthousiasme. Il était Whig, bien sûr, et il était devenu l'ami d'Algernon Sidney, homme aux opinions très libérales, qui était le candidat Whig pour Guildford. Les opinions de Sidney, en effet, étaient si extrêmes qu'on le considérait comme dangereux pour la monarchie, et il avait vécu en exil sur le continent pendant de nombreuses années, mais on l'avait autorisé à revenir pour un temps afin de régler la succession de son père. Penn prononça des discours pour lui, et au milieu de l'un d'eux, on tenta de l'arrêter comme jésuite. Mais son effort le plus important fut une courte brochure intitulée « Le grand intérêt de l'Angleterre dans le choix d'un nouveau Parlement ». Cette brochure nous apprend que Penn croyait à l'existence du complot papiste tel que l'avait décrit Hoat, car il dit que le premier objectif à atteindre par cette élection est de poursuivre la découverte et le châtiment du complot. Dans un autre passage, il conseille aux électeurs de ne choisir que des protestants sincères, et l'on peut reconnaître les faux protestants, dit-il, à leur façon de rire du complot, de discréditer les preuves. Qu'il y ait eu, à cette époque et longtemps après, de la part des catholiques romains, tant en Angleterre que sur le continent, l'intention de s'emparer du gouvernement britannique et d'imposer le catholicisme à l'Angleterre, cela ne fait aucun doute. Les protestants étaient pleinement fondés à s'en prémunir et à contrebalancer la tendance catholique de leur roi. Mais les preuves d'Hoat allaient plus loin que cette simple intention et prétendaient révéler un complot régulièrement organisé, devant s'accompagner d'assassinats à grande échelle, et l'on croit aujourd'hui qu'il ne s'agissait que d'un délire. Pourtant, des milliers de personnes y croyaient. Il n'y a rien d'autre, dans sa brochure, qui appelle un commentaire particulier. Il répète nombre de ses anciens arguments en faveur d'un rétablissement de la liberté anglo-saxonne et réclame l'ami en accusation des mauvais conseillers qui induisaient le roi en erreur. « Il faut, dit-il, nous prémunir contre le papisme et l'esclavage et soulager les dissides protestants. Si cela est accompli, le roi devrait être récompensé par une augmentation de ses revenus. Il faut observer qu'il est ardent contre le papisme et ferme défenseur du gouvernement protestant anglais. Algernon Sidney ne fut pas élu. Il reçut la majorité des suffrages, mais ne fut pas déclaré élu parce qu'il n'était pas bourgeois, Freeman de Guildford. Penn n'avait pas, à cette époque, beaucoup de chances pour obtenir en politique ce qu'il voulait. Son parti, les Whigs, obtint cependant une large majorité au Parlement. Cela ne convenait pas au roi, il dissout donc immédiatement le Parlement à nouveau, et il y eut une autre élection. Algernon Sidney se présenta pour Bombay, dans le Sussex, fut de nouveau ardemment soutenu par Penn, et de nouveau battu. Par ses efforts pour aider le parti Whig contre le papisme, Penn espérait montrer qu'il n'était pas un jésuite et que les Quakers n'étaient pas des jésuites. Mais, dans l'état d'esprit extrêmement soupçonneux des gens, il y en eut sans doute beaucoup qui devinrent d'autant plus méfiants et crurent que son zèle pour les Whigs n'était qu'un habile parave de son jésuitisme secret. Après le second échec de Sidney à être élu au Parlement, Penn écrivit une autre brochure intitulée « Un projet pour le bien de l'Angleterre », destinée à aider les Whigs et, en même temps, à mettre les Quakers dans une meilleure position. Il soutenait que les protestants devaient s'unir contre leur vieil ennemi, et que les dissides et l'Église d'Angleterre devaient abandonner leur crêle et présenter un front uni à Rome. « Dans l'Église de Rome, disait-il, la religion ne signifiait pas l'amour de Dieu et du prochain, mais l'Empire civil, et s'emparer du gouvernement de l'Angleterre, était l'objectif premier des catholiques romains. L'Église d'Angleterre ne devrait-elle pas alors, demande-t-il, cesser de nous persécuter, nous dit-Cide. La simple conformité à son culte, lui, est-elle plus chère que la cause générale du protestantisme et la sécurité du gouvernement britannique? Ne fait-elle pas ce que Rome désire qu'elle fasse, disperser, appauvrir et désunir les dissides, et affaiblir la cause du protestantisme? Un anglican refuserait-il l'aide d'un quake ou d'un baptiste pour le tirer d'un fossé? Et pourquoi se priverait-il de cette aide dans la grande cause du protestantisme? Il plaide de nouveau en faveur de son ancien thème, la liberté religieuse, non seulement comme une chose juste en elle-même, mais comme une politique sage qui unira la nation, lui donnera de la force contre les complots jésuites et aussi la suprématie commerciale. Je demande si le roi ne retire pas davantage de droits de douane et le royaume davantage de commerce en encourageant le travail et les échanges d'un épiscopalien, d'un presbytérien, d'un indépendant, d'un quake et d'un anabaptiste, plutôt que d'un épiscopalien seulement. Car tant qu'il ne sera pas de l'intérêt du fermier de détruire son troupeau, d'affamer le cheval qu'il monte et la vache qui lui donne du lait, il ne saurait être de l'intérêt de l'Angleterre de laisser une grande partie de ses habitants sobres et utiles être détruits pour des choses qui concernent un autre monde. En conclusion, il dit que la sauvegarde la plus importante est d'empêcher les papistes de se faire passer pour des protestants. Le serment de Test était insuffisant parce que les Quakers ne pouvaient prêter serment et se trouvaient ainsi injustement placés en position d'être soupçonnés de papisme. Et les papistes, comme les 6 derniers mois l'avaient montré, pouvaient obtenir dispense pour prêter n'importe quel serment, qu'il fût ou non contraire à leur religion. Il propose donc un nouveau type de test, qui n'est pas un serment de test, mais une affirmation de test pouvant être faite par les Quakers et par tous ceux qui sont d'honnêtes protestants. Il en donne une formule, qui est assurément très rigoureuse. L'affirmation déclare, en bonne conscience et en présence de Dieu et des hommes, que Charlie est le roi légitime, que le pape n'a aucune autorité pour le déposer ni pour absoudre ses sujets de leur allégeance, ni pour leur donner le droit de conspirer contre lui ou de l'assassiner. Puis l'affirmation se poursuit en niant toutes les doctrines importantes du romanisme et se clôt par la déclaration qu'il fait cela sans aucune équivoque ni réserve mentale, et que les mots qu'il emploie doivent être pris dans leur sens clair et habituel. Ce test proposé peine devait être administré par des magistrats et des officiers paroissiaux à tous les habitants d'Angleterre, et chacun devrait être contraint de le faire chaque année le mercredi des cendres, le jour où le pape maudit tous les protestants. Cela, soutenait-il, unirait tout l'intérêt protestant. S'il avait été adopté, il aurait certainement placé les Quakers dans une situation bien meilleure et les aurait soulagés des violentes accusations de la populace. La proposition sérieuse de Penn contribua sans doute, dans une certaine mesure, à le libérer, lui et sa secte, du soupçon de jésuitisme. Chapitre vie, l'expérience sacrée de Pennsylvanie. Presque immédiatement, après la première expérience de Penn dans la politique pratique, lorsqu'il tenta d'obtenir l'élection d'Algernon Sidney au Parlement, il entra en contact encore plus étroit avec la vie politique et le gouvernement. Ses efforts pour Sidney et sa brochure contre le papisme datent de 1679, et en 1680, nous le voyons s'employer à obtenir de la couronne une concession de terre en Amérique qu'il devait appeler Pennsylvanie. À première vue, cela pourrait sembler un mouvement assez soudain de sa part, mais il y a lieu de croire que le projet était plus ou moins dans son esprit depuis 20 ans. Ses biographes, lui, ont généralement attribué le mérite d'avoir été à l'origine de cette idée d'établir une colonie Quake. Mais l'idée n'était nullement originale chez lui, et si elle est née de l'esprit d'une seule personne, ce fut celui de George Fox. Même la bande de terre choisie pour la colonie n'était pas du choix de Penn, car Fox, comme les Quakers, avait porté leur attention sur elle depuis longtemps. Presque dès qu'ils eurent conscience d'être une secte, les Quakers avaient songé à établir pour eux-mêmes un refuge dans la nature sauvage américaine. Souffrant si sévèrement des lois faites contre eux, il était naturel qu'ils aient cette pensée. Les Puritains étaient partis pour le Massachusetts, où ils faisaient à leur guise en matière de religion, et les catholiques romains, sous la conduite de Lord Baltimore, étaient partis pour le Maryland. Mais où les Quakers iraient-ils? Ils devaient avoir leur propre territoire et leur propre colonie, car ceux d'entre eux qui étaient partis au Massachusetts y étaient fouettés au cul de la charrette, et 4 d'entre eux furent pendus. Ils étaient plus mal lotis au Massachusetts qu'en Angleterre. Ils ne pouvaient obtenir de terre nulle part en Nouvelle-Angleterre. Ils ne tenaient pas à aller parmi les Anglicans en Virginie, ni parmi les catholiques romains du Maryland, et les Hollandais tenaient New York. Dès une date presque aussi ancienne que 1650, certainement dès 1656 ou 1657, George Fox avait fixé ses pensées sur cette grande région, inoccupée, située juste au nord du Maryland et derrière le New Jersey. Elle n'avait été prise par personne en particulier parce qu'elle était à quelque distance du littoral. Mais un grand fleuve que les Hollandais avaient appelé le Zuid, les Suédois le New Swedland Stream et les Anglais le Delaware y conduisait, et l'on disait l'accès assez facile. Il y avait alors un Quaker nommé Josiah Cole, qui avait déjà voyagé en Amérique et fréquenté des tribus indiennes. Fox le consulta et lorsque Cole fit un second voyage en Amérique, en 1660, il fut chargé de traiter avec les Indiens Susquehanna, qu'on supposait être les seigneurs rouges de ce vaste espace au nord du Maryland. Cole se rendit parmi ces Indiens et leur exposa sa mission. Mais ils étaient en guerre avec d'autres tribus, et William Fuller, un Quaker du Maryland très influent, sur lequel il fallait compter pour faire l'achat, était absent. On ne put rien faire à ce moment-là, et en novembre 1660, Cole rendit compte de ce résultat à Fox dans une lettre, que l'on peut encore lire dans la « History of the Free Indian America » de Bowden. Bien que rien ne pût être fait, le sujet fut sans doute débattu parmi les partisans de Fox en Angleterre, et l'année suivant l'écriture de la lettre de Cole, la discussion dut parvenir aux oreilles de Penn, qui était alors étudiant au Christ Church College, car 20 ans plus tard, il écrit « J'eus une ouverture astérisque de joie à l'égard de ces contrées en l'année 1661 à Oxford. » Astérisque les « premiers Quakers décrivaient les « ouvertures » comme des révélations dans la lumière, plus qu'une vision, ni un rêve, mais une vision accompagnée d'une compréhension immédiate et claire. Penn eut manifestement une révélation prophétique de Dieu concernant la future colonie-refuge. C'est à peu près à cette même époque que Penn reçut sa première impulsion vers la foi Quake, par la prédication de Thomas Law, et lors des réunions où il entendait Law, il dut entendre aussi parler du projet d'une colonie Quake en Amérique. Ainsi, les deux grandes choses de sa vie, sa religion et sa colonie, furent suggérées à son esprit presque au même moment, ou du moins à moins d'un an d'intervalle, alors qu'il était un jeune homme au collège. L'idée de recommencer à neuf la vie et la religion dans les forêts vierges d'Amérique devait exercer sur Penn un puissant attrait et l'emporter dans un enthousiasme sans bornes. Elle dut le toucher profondément lorsqu'elle entra pour la première fois dans son jeune esprit. Il dit que ce fut une « ouverture de joie » et l'on comprend aisément comment l'imagination d'un étudiant pouvait s'emballer à une telle suggestion. Même s'il n'avait pas été religieux, la pensée de dompter la nature et les aventures de la vie sauvage aurait éveillé les plus fortes énergies d'une âme naturellement vigoureuse et virile. Mais lorsque, en outre, sa nature morale plutôt trop sérieuse vit la vision de conduire un peuple persécuté vers la liberté et le bonheur, de le délivrer de l'emprisonnement, des dîmes et de la corruption, et d'établir pour lui, loin de toute contamination, la religion primitive du Christ, on comprend pourquoi il la décrit comme une « ouverture de joie ». En 1680, lorsqu'il commença à négocier avec la couronne pour la grande étendue de terre dont il avait rêvé enfant et que les Quakers espéraient depuis si longtemps obtenir, il avait déjà une certaine expérience des affaires coloniales. Le New Jersey avait été divisé en deux colonies, l'East Jersey appartenant à ce George Carteret et le West Jersey appartenant à Lord Berkeley. Le West Jersey fut vendu, en 1775, par Lord Berkeley à John Fenwick, en fiducie pour Edward Billinge. Fenwick et Billinge étaient tous deux Quakers et, s'étant crêlés au sujet de la propriété, demandèrent à Penn d'agir en arbitre. Les Quakers étaient très opposés au procès entre les membres de leur propre peuple, et partout où cela était possible, des pacificateurs, comme on les appelait, réglaient tous les différends. Fenwick fut mécontent de la décision de Penn, et Penn semble avoir été très inquiet qu'il y eût tout de même un procès, ce qui jetterait le discrédit sur leur foi. Les efforts qu'il fit pour amener un accord semblent montrer que l'évitement des procès était alors d'une importance primordiale. Il supplia instamment Fenwick de prévenir le mal qui suivra certainement si l'affaire est divulguée à Westminster Hall, et finalement, il réussit. Billinge, toutefois, fit bientôt faillite et transféra son intérêt dans le West Jersey à Penn et à quelques autres pour le détenir comme fiduciaire au bénéfice de ses créanciers. Penn fut actif dans la gestion de la propriété, obtint une ligne de démarcation précise entre elle et l'East Jersey et semble avoir aidé à rédiger, en 1676, une constitution pour son gouvernement. Dans cette constitution, la liberté religieuse est établie, comme on pouvait naturellement s'y attendre dans toute constitution où Penn ou les Quakers avaient part, et un procès équitable par jury est également garanti, car Penn avait beaucoup souffert en Angleterre des atteintes au procès équitable. De nombreux Quakers partirent pour le West Jersey, et leurs descendants constituent encore un élément respectable de la population. Ainsi, Penn contribua à établir une sorte de refuge pour son peuple dans le West Jersey 5 ou 6 ans avant de recevoir la concession de la Pennsylvanie. Ce George Carteret, propriétaire de East Jersey, mourut en 1679 et par son testament, donna des instructions pour que sa province fût vendue. Penn et 11 autres en devinrent les acquéreurs. Ils en admiraient bientôt 12 autres à partager la propriété avec eux, si bien qu'il y eut 24 propriétaires. Ils nommèrent gouverneur Robert Barclay, qui était devenu Quaker à peu près en même temps que Penn, et qui était maintenant théologien et auteur de l'ouvrage connu sous le nom d'Apologie de Barclay. Mais il ne se rendit jamais dans la province. Il resta en Angleterre et envoya des députés gouverner en son nom. Sous ce gouverneur Quaker et ses propriétaires Quakers, quelques membres de la secte s'ajoutèrent à la population. Mais ni East ni le West Jersey ne devinrent des bastions Quakers. Il sembla impossible d'en faire de tels bastions. Ils ne réalisèrent jamais les attentes initiales de Fox et d'autres lorsqu'ils avaient envisagé la terre au nord du Maryland comme le futur foyer de leur foi en Amérique. Il y avait peu d'éléments de prospérité dans les Jersey. Le sol n'était pas aussi fertile et les caractéristiques générales pas aussi attrayantes que les vastes forêts et les chaînes montagneuses de la Pennsylvanie. L'intérêt de Penn pour le New Jersey fut faible et disparut bientôt entièrement de sa vie, car en 1702, les propriétaires des deux Jersey renoncèrent à leurs droits au profit de la reine Anne, et à partir de là, les deux provinces ne firent plus qu'une sous le gouvernement direct de la couronne. Le plan originel que Fox avait conçu de sécuriser les terres au nord du Maryland étant resté en suspense pendant 20 ans, il dut y avoir quelques raisons particulières pour que Penn se déterminât à agir sur ce plan et à le mener à bien en 1680. Mais cette raison ne nous est pas connue et nous ne pouvons que conjecturer. Si Fox avait proposé le premier l'idée, il est très probable qu'elle ait été dirigée par le Seigneur. Fox ne faisait peu ou rien, à moins d'y être dirigé par le Seigneur, en dont la présence il se tenait continuellement et parlait, la seule exception étant ses plusieurs pénibles travaux spirituels qui duraient d'ordinaire seulement 1 à 2 semaines, mais parfois pendant plusieurs mois. Pour des hommes de foi, un retard de 20 ans ne représente rien. La raison inexpliquée de Penn, mentionnée ci-dessus, d'agir pour obtenir la terre 20 ans plus tard, fut aussi probablement inspirée par la direction du Seigneur. Peut-être que, durant les 4 ou 5 années depuis 1676, pendant lesquelles il s'était occupé de la gestion des Jersey, il apprit non seulement l'immense supériorité de la terre située de l'autre côté du Delaware, mais il vit que les Jersey ne pourraient jamais devenir une véritable colonie Quaker, le type de colonie que Fox et les premiers Quakers avaient originellement conçu. Il vit sans doute aussi que, si ce dessein original devait jamais être réalisé, un seul homme devait s'en emparer et le mener à terme avec enthousiasme. Il était riche, chargé d'aucun souci sinon ce qu'il choisissait de se créer, et il avait hérité d'une amitié précieuse et d'une influence auprès du roi et du duc d'York, héritier du trône. Pourquoi attendre davantage? Après 30 ans de lutte, de défense ardente de la liberté de conscience et d'endurance héroïque de l'emprisonnement, les Quakers, bien qu'ayant considérablement augmenté en nombre, étaient aussi persécutés que jamais. Ils n'avaient pas réussi à convaincre les pouvoirs gouvernants qu'on devait les laisser tranquilles. Ils n'avaient pas réussi à établir comme pratique universelle de l'Angleterre l'ancienne liberté anglo-saxonne. Pourquoi certains d'entre eux n'iraient-ils pas là où ils pourraient créer la liberté qu'ils souhaitaient? Il y avait aussi une petite circonstance qui pouvait être d'un grand secours. L'amiral Penn n'avait jamais reçu l'intégralité de son salaire d'officier de marine de la part de la couronne, et il avait prêté de l'argent à la couronne pour des besoins navals. Cette dette s'élevait maintenant à 16 000 livres, somme qui n'est pas grande à notre époque pour un gouvernement, mais Charles y manquait toujours d'argent. Il avait une cour coûteuse et des favoris et des maîtresses coûteux à divertir, et il était, en vérité, si à l'étroit qu'il avait sacrifié son propre honneur et l'honneur de son pays afin de recevoir une aide secrète du roi de France. Il ne paierait jamais 16 000 livres à peine en argent, il remettrait sans cesse, quelle que fût l'insistance, mais il pourrait être disposé à la payer en terre sauvage et inhabitée. Une suggestion en ce sens lui apparaîtrait aussitôt comme une bonne affaire. Il se débarrasserait d'une dette gênante sans payer un sou, il renforcerait les possessions coloniales de l'Empire et se débarrasserait de plusieurs milliers de Quakers qui se plaignaient toujours et causaient chez lui des troubles coûteux. Il serait intéressant de savoir exactement quand et comment il vint à l'esprit de Penn de faire cet usage de la dette qu'il avait héritée de son père. Mais pour l'heure, nous n'avons aucun détail. Nous savons seulement qu'en 1680 il envoya une pétition au roi demandant qu'en paiement de la dette de 16 000 livres, on lui accorda une étendue de terre en Amérique située au nord du Maryland, bornée à l'est par le fleuve Delaware, à l'ouest limitée comme le Maryland, et vers le nord s'étendant aussi loin que Plantable. Penn avait dû auparavant discuter de cette concession avec les principaux Quakers et discuter aussi de ses projets futurs pour peupler et gouverner sa province. Il est impossible de penser qu'il ne l'ait pas fait, et il a dû également sonder certaines personnes à la cour et mesurer les chances de succès de sa pétition. Nous savons, par ses lettres ultérieures, qu'il obtint l'aide et l'influence de Lord North et de Lord Sunderland. Lorsque la pétition fut soumise à une commission du Conseil privé du roi, il y eut une discussion considérable sur les frontières, à savoir si elle n'entrerait pas en conflit avec les lignes de certaines colonies de Nouvelle-Angleterre dont les chartes les étendaient vers l'ouest jusqu'à l'océan Pacifique, et il y eut aussi une difficulté au sujet des limites du Maryland. La commission régla toutes ces questions à sa satisfaction, mais ce règlement fut loin d'être définitif. Aucune colonie ne reçut jamais des frontières qui suscitèrent autant de contestations. De terribles controverses et une petite guerre désastreuse s'ensuivirent parce que l'on croyait que la Pennsylvanie coupait l'extension occidentale du Connecticut. La frontière avec le Maryland fut litigieuse pendant plus de 70 ans. Qu'il suffise de dire ici que, par une malheureuse erreur, les limites apparentes du Maryland avaient, 30 ans auparavant, été tracées de manière à inclure une grande partie de ce qui est aujourd'hui la Pennsylvanie. Et par une erreur tout aussi malheureuse, les limites apparentes de la Pennsylvanie furent tracées de manière à inclure presque tout le Maryland. Si les limites du Maryland étaient justes, Philadelphie était une ville du Maryland, et si les limites de la Pennsylvanie étaient justes, Baltimore était une ville de Pennsylvanie. Mais indépendamment de toutes ces questions, l'étendue de terre que Penn et ses héritiers reçurent finalement, et que le roi entendait qu'ils reçoivent, était immense. Elle contenait plus de 40 000 milles carrés de territoire, la plus grande étendue jamais donnée en Amérique à un seul individu et, comme nous le savons maintenant, la plus riche en ressources naturelles de charbon, de fer, de pétrole et en sol fertile. Ce fut la seule concession royale en Amérique qui fut achetée avec de l'argent. Dans tous les autres cas où une province fut donnée à un seul individu, comme à Lord Baltimore, ou à une corporation, comme dans le cas du Massachusetts, aucun prix ne fut payé. L'accord du peuple pour risquer sa vie et sa fortune en colonisant la province était supposée constituer une contrepartie suffisante pour la concession. Mais Penn paya, ce qui équivalait à une très grande somme en acceptant sa concession en extinction de la dette que la couronne avait envers lui. Cela explique en partie la vaste taille de sa province. Comme il offrait une contrepartie plus importante que quiconque avant lui, il avait certainement droit à plus de terres qu'aucun de ses prédécesseurs n'en avait reçu. Puis, il faut aussi se souvenir que le roi et le duc d'York se sentaient particulièrement obligés envers Penn pour l'amour de son père et avaient promis au père qu'ils aideraient et protégeraient le fils. Il n'y avait sûrement aucun autre Quake dont la situation et l'influence héréditaire auraient permis d'obtenir pour son peuple un territoire aussi immense et précieux. Le 4 mars 1681, la charte reçut la signature du roi et Penn devint seigneur d'un domaine considérablement plus grand que l'Irlande, et auquel il ne manquait qu'environ 6000 milles carrés pour être aussi grand que l'Angleterre. La naissance de la Pennsylvanie, 1680, par Jean le Jérôme Ferry. William Penn, tenant un papier, debout et faisant face au roi Charles Yee, dans la salle du petit déjeuner du roi à Whitehall. Ce jour-là, mon pays m'a été confirmé sous le grand sceau d'Angleterre, avec de vastes pouvoirs et privilèges, sous le nom de Pennsylvanie, nom que le roi voulut lui donner en l'honneur de mon père. J'avais choisi Nouvelle-Galles, parce que c'est un pays assez vallonné. Mais Penn est en gallois pour tête, comme Penn en moire au pays de Galles, et Penwith dans le Cumberland et Penn dans le Buckinghamshire, la terre la plus élevée d'Angleterre, on appela cela Pennsylvanie, c'est-à-dire les hauts, ou les bois de tête. Car j'avais proposé lorsque le secrétaire, un gallois, refusa qu'on l'appelât Nouvelle-Galles, Sylvania, ils y ajoutèrent Penn. Et bien que je m'y sois beaucoup opposé et que je sois allé trouver le roi pour qu'on le retranchât et qu'on le... Razedzanal, 500. La charte fut largement modelée sur celle accordée 50 ans plus tôt à Lord Baltimore pour le Maryland, et elle était foncièrement féodale par sa nature. Penn se trouvait à peu près dans la même position que le seigneur d'un ancien manoir anglais. La terre lui appartenait entièrement, et les colons devaient être ses tenanciers, lui versant un loyer. En échange de ce grand privilège, il devait payer au roi 2 pots de castor par an, à remettre au château du roi à Windsor, et le roi devait aussi recevoir 1/5 de tout l'or et l'argent que l'on trouverait dans la province. Penn fut toutefois contraint par la charte, comme Lord Baltimore l'avait été par la sienne, d'accorder à ses colons un gouvernement libre. Les lois devaient être faites par lui avec l'assentiment du peuple ou de ses délégués, ce qui, traduit dans la pratique, donnait au peuple le droit d'élire un corps législatif et donnait à Penn un droit de veto sur les actes que ce corps législatif adopterait. Il avait aussi le pouvoir de nommer des magistrats, des juges et d'autres officiers et d'accorder des grâces pour des crimes. Par la charte, il était gouverneur perpétuel de la colonie, mais il demeurait généralement en Angleterre et nommait un gouverneur adjoint pour exercer son autorité. En bref, le peuple contrôlait la partie législative du gouvernement, tandis que Penn, par son pouvoir de nommer tous les fonctionnaires, contrôlait l'exécutif. Environ un mois après avoir reçu sa charte, il donna commission à son cousin, William Markham, fils de la sœur de l'amiral Penn, de se rendre en Pennsylvanie, d'en prendre possession en son nom, et jusqu'à ce qu'un gouvernement régulier puisse être établi, de gouverner les familles éparses de Suédois, d'Anglais et de Hollandais qui vivaient le long des rives du Delaware. Markham atteignit le Delaware vers le 1er juillet 1681 et établit son quartier général à un endroit appelé Upland, à environ 15 milles au-dessous de l'emplacement actuel de Philadelphie. Il y resta à la tête des affaires plus d'un an, car Penn n'arriva dans sa province qu'en octobre 1682. Entre-temps, Penn obtint un agrandissement de son territoire. Apprenant par Markham que Lord Baltimore contestait ses frontières, il obtint, par une concession du duc d'York, la terre aujourd'hui comprise dans l'État du Delaware. L'objectif de Penn, en obtenant ce territoire supplémentaire, était d'assurer le contrôle de toute la rive occidentale du fleuve Delaware et de la baie, depuis sa province jusqu'à l'océan, et en même temps, de se fortifier contre Lord Baltimore, dont les prétentions, d'après le récit de Markham, entamaient profondément la moitié sud de la Pennsylvanie. Penn, avant de partir pour sa province, fit aussi paraître des annonces pour recruter des colons et expliqua pleinement les conditions et les perspectives. Dans le même temps, il avertit le public, avec son soin consciencieux, qu'il ne fallait pas se précipiter inconsidérément dans cette nouvelle entreprise. Il faudrait endurer un hiver en Pennsylvanie avant de pouvoir jouir d'un été et consentir à passer 2 ou 3 ans sans les conforts et commodités de l'Angleterre. Mais d'autre part, disait-il, fonder des colonies était une œuvre grande et glorieuse, et il s'employa à montrer comment cela renforcerait l'Angleterre au lieu de l'affaiblir, comme certains le supposaient. Ceux qui souhaitaient venir à lui pouvaient obtenir des terres en payant 100 livres pour 5000 acres, puis, chaque année, un loyer d'un shilling pour chaque 100 acres. Ceux qui n'avaient pas d'argent comptant pour payer ainsi pouvaient obtenir 200 acres ou moins au loyer d'un shilling par acre. Ils auraient leur propre législature. Aucune loi ne serait adoptée ni aucun impôt levé sans le consentement du peuple, et il jouirait de tous les droits et libertés britanniques. Penn était en effet très occupé aux préparatifs pendant l'année où Markham l'attendit. Il serait parti immédiatement mais ne le put. Il souhaitait emmener avec lui un grand nombre de colons. Beaucoup avaient accepté de partir, mais ils voulaient du temps pour régler leurs affaires domestiques. Il attendait des gens de France, de Hollande et d'Écosse ainsi que d'Angleterre. Dans une lettre écrite à cette époque, il parle de son entreprise comme d'une sainte expérience, expression que les Quakers appliquent depuis longtemps à celle-ci. Il dut prendre plaisir aux préparatifs et attendre avec joie et impatience le jour où il pourrait, avec son peuple, s'élancer dans la wilderness. Et il convient de dire ici qu'il entendait que sa province fût profitable. Cela n'était pas incompatible avec le fait d'appeler son entreprise une sainte expérience, ni avec son intention d'établir un refuge pour les gens de sa foi. Il entendait accomplir les deux, en vérité tout accomplir. Prouver que la liberté religieuse complète était non seulement juste et chrétienne, mais profitable et avantageuse en tout. Il montrerait comment les hommes prospéreraient sous elle dans l'agriculture, le commerce et tous les arts et raffinements de la vie. Il montrerait qu'un gouvernement pouvait fonctionner sans guerre et sans serment, que le christianisme pur, originel, primitif des temps des apôtres pouvait être maintenu sans église établie, sans clergé salarié, sans cruauté ni persécution, sans dogme ridicule ni rituel peu viril, simplement par sa propre puissance innée, l'Esprit du Christ, la lumière intérieure. Il ferait cela avec l'aide de ses disciples, les Quakers, qui ne l'abandonneraient jamais, grâce à sa propre sincérité de dessein et à l'énergie de son esprit, grâce à sa propriété féodale d'un vaste domaine et grâce au pouvoir que la richesse confère. Les principes qui animaient les amis qui émigrèrent en Pennsylvanie et dans les autres provinces américaines sont exposés dans une publication contemporaine, intitulée « Le discours du planteur prononcé par Penn », comme suit « Les motifs de notre retraite dans ces nouvelles demeures, je les ai compris comme ayant été le désir d'une vie paisible, où nous pourrions adorer Dieu et obéir à sa loi librement, selon les dictées du principe divin. Notre affaire, donc, dans ce nouveau pays, n'est pas tant de bâtir des maisons et d'établir des manufactures, et de promouvoir le commerce et l'industrie, qui pourrait les enrichir, quoique toutes ces choses à leur place ne doivent pas être négligées, que d'élever des temples astérisques de sainteté et de justice dans lesquels Dieu puisse prendre plaisir, de poser des cadres et des fondations durables de tempérance et de vertu qui puissent soutenir la superstructure de notre bonheur futur, dans ce monde comme dans l'autre. Les seuls temples que les Quakers entendaient étaient les temples édifiés dans le cœur de chaque croyant. Les premiers Quakers éprouvaient un grand mépris pour les temples faits de mains d'hommes, rappelant que Dieu n'avait ordonné qu'un seul temple dans toute l'histoire, et que Jésus en avait annoncé la destruction, pour être rebâti en 3 jours, car Jésus ressuscité dans le cœur d'un homme est le temple de la Nouvelle Jérusalem. C'était un plan stupéfiant, une prise héroïque d'un monde entier de lumière et de vérité par quelqu'un qui avait vécu pendant des siècles dans les ténèbres, car Penn était typique de son époque, il était la voix de son temps, criant passionnément après la lumière au terme de la longue nuit du Moyen Âge, comme le Seigneur me l'a donné sa province au milieu de toute et grande opposition. Je ne voudrais pas abuser de son amour, ni agir indignement de sa providence, et ainsi souiller ce qui m'est venu pur. Non, que le Seigneur me guide par sa sagesse et me préserve afin d'honorer son nom et de servir sa vérité et son peuple, pour qu'un exemple et un étendard soient dressés pour les nations. Il y aura là de la place, quand il n'y en a point ici. Des hommes vinrent alors à lui et dirent qu'ils organiseraient une compagnie et lui donneraient 6 000 livres, s'il leur accordait le monopole de tout le commerce avec les Indiens dans sa province, mais il refusa. Il avait des opinions particulières sur les Indiens, opinions très particulières en son temps, mais que partageaient avec lui les Quakers. Il croyait que les chrétiens devaient payer chaque perche de terre et, dans leur commerce et leurs relations avec les Indiens, les traiter avec une parfaite équité et honorabilité. Cette idée de payer scrupuleusement les Indiens pour leurs terres n'était pas originale chez lui, mais suggérée, comme il nous le dit, par l'évêque de Londres. Il est assez facile d'écrire ou de répéter une proposition philanthropique de ce genre. Beaucoup l'ont fait, mais Penn s'y conforma. Il rédigea un document appelé « Conditions ou concessions » par lequel sa province devait être gouvernée jusqu'à ce qu'un gouvernement régulier puisse être établi. Ces conditions prévoyaient l'arpentage d'une ville, le tracé de route, et la dernière partie tentait de régler les relations avec les Indiens de manière à ce qu'ils ne soient pas trompés. Le commerce avec eux devait être conduit ouvertement et honnêtement. Un colon qui léserait un Indien devait être puni comme s'il avait lésé un homme blanc. Les différends entre colons et Indiens devaient être tranchés par un jury de 12 personnes, dont 6 seraient des Indiens. Il s'opposait à accorder à quiconque un monopole du commerce avec les Indiens, non seulement parce que les Indiens pourraient être spoliés, mais aussi parce que le monopole serait injuste. Pour la même raison, il refusa de fortes sommes offertes pour certains points particulièrement avantageux dans la province, parce qu'il voulait traiter tous de la même façon. Certains de sa propre foi essayèrent de conclure avec lui des marchés spéciaux pour des terres. Mais il refusa et déclara que tous devaient acheter au même tarif. L'un de ceux qui avait ainsi essuyé un refus rapporte dans une lettre « Je crois qu'il vise réellement davantage la justice et la droiture, et la diffusion de la vérité, que son gain particulier. » Astérisque traité, tous les hommes de la même manière est un principe fondamental du christianisme qui interdit de faire acception de personne, montrer de la partialité envers qui que ce soit. Il réussit à faire appareiller quelques navires avec des émigrants, bien qu'il fût incapable de les accompagner. Et à l'automne qui suivit le départ de Morecambe, il envoya 3 commissaires pour choisir l'emplacement d'une ville et négocier avec les Indiens. D'après ses instructions à ses commissaires, nous apprenons comment il préparait sa grande expérience et quel plaisir il devait avoir à s'imaginer une ville quake idéale et à envoyer des hommes la tracer dans la wilderness encore vierge. Il leur dit de sonder tous les ruisseaux du côté pennsylvanien du Delaware afin d'y établir une grande ville, et d'être sûr de choisir l'endroit le plus navigable, élevé, sec et salubre, c'est-à-dire là où le plus grand nombre de navires pourront mouiller au mieux, avec le plus fort tirant d'eau, et si possible pouvoir charger ou décharger au bord ou le long du quai, sans avoir besoin de barques supplémentaires ni de bateaux à fond plat. Il serait bon, leur dit-il, que le ruisseau qui se jette dans le fleuve à l'endroit où ils bâtiront la ville soit navigable pour des bateaux remontant vers l'intérieur des terres. Ce fut sa première conception de Philadelphie. Et ses commissaires n'eurent aucune difficulté à la situer, car nous apprenons par d'autres sources que les familles dispersées qui vivaient le long du fleuve savaient depuis longtemps quel était le meilleur emplacement pour une grande ville. Les avantages que mentionne Penn se trouvaient, dans l'ensemble, le mieux réunis en un point situé à quelques milles au nord de l'embouchure de la Schuylkill, qui était le genre de ruisseau qu'il voulait, navigable pour des bateaux remontant dans l'intérieur du pays. Il nous a déjà dit, dans un passage cité plus haut, pourquoi la province reçut son nom, mais nous n'avons aucune explication sur les raisons pour lesquelles on appela ainsi Philadelphie. Le mot signifie « amour fraternel », mais je ne pense pas que ce fût la raison. C'était aussi le nom d'une ancienne ville d'Asie mineure, où fut établie l'une des 7 églises des premiers chrétiens, et qui est mentionnée dans le livre de l'Apocalypse comme l'unique église fidèle, que le Christ loua en ces termes « Je connais tes œuvres et ce que tu fais ». Voici, j'ai mis devant toi une porte grande ouverte que personne ne peut fermer. Je sais que tu as peu de puissance, et pourtant tu as gardé ma parole, tu as préservé mon message et tu n'as pas renoncé ni renié mon nom. Sache-le. Je ferai que ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, m'aimantent, voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, et ils apprendront et reconnaîtront que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé ma parole de patiente endurance, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui vient sur le monde entier pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne te ravisse et ne te prive de ta couronne. Ainsi, le nom est essentiellement celui de la seule église chrétienne couronnée de succès dans l'Apocalypse, comme l'était l'église des Quakers, qui fit l'expérience du retour de Jésus et de son royaume, à qui il vint bientôt. Il poursuit en indiquant au commissaire comment lotir les terres, d'être impartialement juste et courtois envers d'éventuels anciens colons qu'il y trouverait, d'éviter d'offenser les Indiens, et d'écouter par d'honnêtes espions, si vous pouvez apprendre que quelqu'un les intrigue afin qu'ils ne vendent pas, ou qu'ils se tiennent à l'écart et fassent monter le prix contre vous. Il règle la figure de la ville avec des rues régulières, place les entrepôts et les marchés là où ils pensent qu'ils doivent être, et ordonne qu'ils choisissent un emplacement au milieu de la ligne de maisons faisant face au fleuve, pour la situation de ma maison. Que chaque maison soit placée, si la personne le souhaite, au milieu de sa parcelle, en largeur, afin qu'il y ait du terrain de chaque côté pour des jardins ou des vergers, ou des champs, de sorte que ce soit une ville campagnarde verdoyante, qui ne brûlera jamais et sera toujours saine. Ensuite, les commissaires devaient veiller à ce que aucun vice ni mauvais propos ne restât sans censure ni impuni chez quiconque, afin que Dieu ne soit pas provoqué à la colère contre le pays. Il envoya une excellente lettre aux Indiens, à qui il parla du grand esprit qui avait fait l'homme blanc comme l'homme rouge. À présent, le grand Dieu a bien voulu me rendre concerné par votre partie du monde, et le roi du pays où j'habite m'y a donné une grande province, mais je désire en jouir avec votre amour et votre consentement, afin que nous vivions toujours ensemble comme voisins et amis. Sinon, que ferait le grand Dieu à nous qui nous a fait, non pour nous dévorer et nous détruire les uns les autres, mais pour vivre ensemble sobrement et avec bonté dans le monde. Tout en faisant tous ces préparatifs, il n'oublia pas George Fox et lui réserva en don 1250 acres de terre. Il avait aussi d'autres choses à penser que la Pennsylvanie. Ses écrits furent, durant cette année, tous publiés ensemble en folio. Plusieurs de ses essais, notamment No Cross, No Crown, en étaient déjà à une seconde édition. Il devait, en même temps, résister à une défection dans les rangs Quakers, provoquée par John Wilkinson et John Story, qui s'opposaient à la rigueur de la discipline. Il protestait contre le contrôle croissant de la conduite et des propos des individus, lesquels, disait-il, devraient être davantage laissés à eux-mêmes, chacun étant guidé par la lumière divine en lui. Les Quakers croyaient que leurs membres devaient conduire leur vie selon des normes de conduite chrétienne. Pas d'ivrognerie, pas de jurons, pas de langage profane, pas d'accès de rage, honnêteté en affaires, et véracité envers tous, les Quakers croyaient que quiconque se réclamait du nom de Quake devait se conformer à ces restrictions. Le Seigneur Jésus avait laissé des instructions sur la manière dont les membres de son Église devaient être disciplinés. Si ton frère pêche, va y reprendre entre toi et lui seul. S'il t'écoute et se rup, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes, afin que toute affaire soit établie sur la déposition de deux ou trois témoins. Et s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Mais s'il refuse d'écouter l'Église et de se repentir, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Matt 18, 15-17 Les Quakers avertissaient ses membres fautifs comme Jésus l'avait ordonné. Mais si le membre fautif refusait de se repentir, il était alors renvoyé à la réunion de discipline, dont seuls les spirituellement mûrs étaient membres. Ils entendaient les accusations. Si le membre fautif refusait encore de reconnaître par écrit son erreur, on le retranchait de la communauté au moyen d'un avis public affiché annonçant la radiation. Cela se faisait afin de préserver la réputation des Quakers et de la vérité. Wilkinson et Story semblent avoir soutenu qu'il ne devait y avoir aucune exclusion. L'Église devait seulement conseiller ou admonester. Tenter davantage que cela, c'était glisser vers l'ecclésiasticisme. Fox déclara que ces dissides s'opposaient typiquement à ce que les femmes aient quelque rôle dans la société, aux réunions de femmes, et particulièrement aux femmes prédicatrices, et qu'ils invoquaient la « liberté de conscience » pour couvrir leur véritable motivation de séparation. Fox passa la plus grande partie de ces dernières années à tenter de maintenir une discipline parmi les Quakers, afin de protéger l'unité de l'esprit dans le corps et de protéger la réputation de la foi, il publia plusieurs lettres sur le sujet. C'était en effet une question délicate que de décider jusqu'où la liberté, que les Quakers avaient si ardemment défendue, devait être limitée et contrôlée. Penn écrivit sur la question un pamphlet intitulé « The State of Liberty Spiritual ». Comme Fox, Penn était toujours en faveur de la discipline, sans laquelle, disait-il, il n'y aurait que confusion. « Il ne serait jamais bon, disait-il, d'accepter la plaidoirie de Wilkinson et de Story. Qu'avez-vous à faire de moi ? Laissez-moi ma liberté et à la grâce de Dieu en moi-même. L'un pourrait dire « Je ne vois aucun mal à payer la dîme à un prêtre salarié. » Un autre « Je ne vois aucun mal à me cacher en temps de persécution, ou à me marier par le prêtre, ou à garder ma boutique fermée les jours de fête du monde et les jours de messe, ou à refuser un témoignage public dans les temps de souffrance, et ainsi la société se briserait et se disperserait. » Le pouvoir que le Christ a donné à son Église était celui-ci, que les fautifs, après le premier et le second avertissement, ne se repentant pas, soient rejetés, non emprisonnés, dépouillés, bannis ou mis à mort. À cette époque même, il y avait bien des tentations de se cacher pour échapper aux persécutions, car les magistrats, surtout à Bristol, s'activaient, les réunions étaient dispersées, de lourdes amendes infligées, et des hommes, des femmes et même des enfants emmenés en prison. Des enfants de 12 ans et moins se réunissaient pour adorer après que tous leurs parents avaient été emprisonnés, et eux aussi furent ensuite emprisonnés et brutalement fouettés par les autorités. Il y avait plus que jamais besoin d'un refuge en Pennsylvanie. Mais peine devait interrompre le travail délicieux de planifier les détails de cette province idéale et reprendre son occupation plus habituelle, réconforter et assister ceux qui souffraient sous le coup de la loi. Il était devenu un homme si important qu'il avait, depuis de nombreuses années, été à l'abri des arrestations et des tracasseries. Mais maintenant, bien qu'il fût assez en faveur auprès du roi pour recevoir le don d'un empire de terre, un constable lui ordonna de cesser de prêcher lorsqu'il se leva dans la réunion de Gracechurch Street. Il ne tint aucun compte de l'ordre, et l'on dit que le constable, bien qu'appuyé par des soldats, fut si touché par la solennité de la réunion et par ce qu'il entendit, qu'il ne tenta pas d'intervenir. Penn était désormais une figure si en vue en Angleterre, propriétaire d'une immense étendue de terre que le roi lui avait donnée, qu'il pouvait aider les Quakers qui avaient des démêlés avec le gouvernement. Et lorsqu'il n'était pas occupé à planifier sa colonie, il aidait généralement quelques membres persécutés de sa foi et l'exhortait à le rejoindre dans sa nouvelle province, où la liberté religieuse devait être le mot d'ordre. Il rédigea aussi une constitution pour la Pennsylvanie. En préparant sa constitution pour la Pennsylvanie, il consulta bien d'autres personnes qu'Algernon Sidney. Nous savons maintenant ce que ses biographes précédents ignoraient, qu'il consulta Benjamin Foley, un Anglais de Colchester, parti vivre en Hollande. Il devint un marchand prospère à Rotterdam, un mécène des lettres, un collectionneur de livres rares, un écrivain jouissant d'une certaine célébrité, et très intéressé par toutes les sectes séparatistes, en particulier les Quakers, dont il semble avoir adopté la foi pendant un temps. Sa maison était le rendez-vous d'hommes savants et distingués, et entre autres, d'Algernon Sidney, ainsi que de Locke, le philosophe, qui avait été au collège avec Penn à Christchurch. Foley avait acquis Penn et ses compagnons, et avait voyagé avec eux lorsqu'ils firent leur tournée missionnaire en Hollande et en Allemagne. Il s'employa à procurer des émigrants allemands pour la Pennsylvanie et fut, en fait, l'agent de Penn sur le continent. Penn lui envoya la version finale de la Constitution, et dut aussi lui avoir soumis une version précédente, car Foley compare la version finale à une version antérieure, qu'il semble avoir eu en sa possession. Il écrivit une longue critique de la version finale, formulant quelques 40 ou 50 suggestions, qu'il n'est pas nécessaire de décrire ici en détail, car Penn les rejeta toutes. Sur un point au moins, cependant, Foley eut raison. Penn avait donné à la Chambre haute du corps législatif, ou Conseil provincial, comme il l'appelait, le pouvoir exclusif de proposer des lois. Foley dit que la Chambre basse devait aussi avoir ce droit, et lorsque la Constitution eut été en vigueur pendant quelques années, ce changement fut introduit après des demandes répétées du peuple. À juger de tout cela, des indices internes fournis par la Constitution elle-même et de quelques autres éléments que nous allons mentionner, on peut dire que Penn consulta très largement et avec ardeur, et qu'il prit les plus grands soins à préparer sa Constitution, ou « charpente », comme il l'appelait. Il était manifestement déterminé à obtenir, pour sa sainte expérience, le meilleur gouvernement possible, et à s'assurer l'aide de la pensée la plus avancée et la plus éclairée sur le sujet. Quelles suggestions exactes il reçut de différentes personnes ne peut plus être déterminée. Apparemment, il n'en adopta pas beaucoup, préférant résoudre le problème à sa manière, utilisant les suggestions reçues seulement comme des indices pour perfectionner ses propres plans, sans les modifier radicalement. Parmi les papiers de Penn conservés à la Société historique de Pennsylvanie, on trouve une collection d'environ 20 versions différentes de la Constitution qu'il rédigea ou fit rédiger avant d'en obtenir une qui le satisfit pleinement. Ces versions ont été classées dans un ordre qui montre le développement progressif de ses idées et aussi, peut-être, pourrait-on dire, de celles de ceux qui l'assistèrent, Depuis les premières suggestions grossières jusqu'au document achevé qui fut finalement adopté, aucune d'elles n'est entièrement de sa main. Elles sont généralement très soigneusement écrites, certaines apparemment par des clercs, d'autres peut-être par des personnes qui les proposaient comme suggestions, et certaines sont disposées sous forme de schémas, manifestement pour une plus grande clarté dans l'étude et la réflexion sur le sujet. Beaucoup comportent des ajouts entre les lignes et des marques diverses de la main de Penn. Sa constitution contenait des dispositions intéressantes. Ce fut la première constitution qui prévit une méthode de modification et d'amendement. C'était une idée assez avancée, car Locke avait prévu que sa constitution de Caroline ne serait jamais modifiée, et d'autres constitutions et chartes étaient muettes sur la question. Mais tous les cadres de gouvernement américains sont maintenant comme celui de Penn, et contiennent une disposition permettant leur amendement ordonné, sans violence ni révolution. Sa méthode de mise en accusation, impeachment, par laquelle la Chambre basse devait engager la procédure et la Chambre haute la juger, était également nouvelle dans les gouvernements américains et est aujourd'hui universelle parmi eux. Il fut aussi le premier à énoncer le principe selon lequel toute loi qui violerait la Constitution devrait être nulle. Les rédacteurs de Constitution avaient été fort embarrassés pour fournir une méthode protégeant leur Constitution contre les violations et avaient suggéré divers dispositifs compliqués. Mais Penn fut le premier à atteindre le fondement, ou premier pas, du véritable principe, ou aujourd'hui loi universelle aux États-Unis, selon lequel la loi inconstitutionnelle est nulle. S'il avait fait l'étape suivante, et prévu que les tribunaux avaient le pouvoir de déclarer nulle une telle loi chaque fois qu'elle se présentait à eux dans une affaire, il aurait été l'inventeur du système complet tel que nous l'avons aujourd'hui. Mais cette étape consistant à reconnaître ce pouvoir aux tribunaux ne fut franchie qu'un siècle après son époque. Tout bien considéré, cette constitution était très caractéristique de Penn. C'était une tentative sincère et fervente d'atteindre le meilleur type de gouvernement, mais comme cela lui arrivait souvent, une part de son idéalisme ne réussit pas, et pourtant, au bout du compte, son énergie infatigable fournit quelques idées et principes d'une valeur durable. La version finale de la Constitution était datée du 25 avril 1682 et fut acceptée par Penn et par certains de ceux qui devaient partir pour la province. Ils convinrent aussi, quelques semaines plus tard, de certaines lois qu'ils entendaient emporter en Pennsylvanie avec la Constitution et proposer au peuple sur place pour acceptation. Ces lois contenaient beaucoup des idées avancées qui animaient depuis de nombreuses années les Quakers. À la Constitution, ou cadre comme il l'appelait, il ajouta une noble préface contenant ses réflexions sur l'origine, la nature, l'objet et les modes du gouvernement dont l'essentiel est reproduit ci-après. Lorsque le grand et sage Dieu fait le monde, il lui plut parmi toutes ses créatures de choisir l'homme comme son délégué pour le gouverner. Et pour le rendre apte à une si grande charge et confiance, il ne le qualifia pas seulement par l'habileté et la puissance, mais aussi par l'intégrité pour en faire un usage juste. Cette bonté native était également son honneur et son bonheur, et tant qu'il demeura en cet état, tout allait bien, il n'y avait nul besoin de moyens coercitifs ou contraignants. Le précepte de l'amour et de la vérité divin dans son sein était le guide et le gardien de son innocence. Mais la convoitise, l'emportant sur le devoir, y fit une brèche lamentable, et la loi, qui auparavant n'avait aucun pouvoir sur lui, s'appliqua à lui et à sa descendance désobéissante. Ceux qui ne voulaient pas vivre conformément à la sainte loi intérieure tomberaient sous le reproche et la correction de la juste loi extérieure, dans une administration judiciaire. L'apôtre l'enseigne, dans plusieurs de ses épîtres, que toute âme soit soumise aux autorités supérieures. Les autorités qui existent sont instituées par Dieu. Les magistrats ne sont pas une terreur pour les bonnes œuvres, mais pour les mauvaises. Il est le ministre de Dieu pour ton bien. C'est pourquoi il faut nécessairement être soumis, non seulement par crainte de la colère, mais aussi par motif de conscience. Cela établit le droit divin du gouvernement sans exception, et cela pour deux fins, premièrement terrifier les malfaiteurs, deuxièmement chérir ceux qui font le bien, ce qui donne au gouvernement une vie au-delà de la corruption et le rend aussi durable dans le monde qu'il y aura d'hommes de bien, de sorte qu'il me semble que le gouvernement fait partie de la religion elle-même, chose sacrée dans son institution et sa fin, car s'il ne supprime pas directement la cause, il écrase les effets du mal, et est en ce sens bien qu'inférieur. La différence tenant à ceci, l'une est plus libre et mentale, l'autre plus corporelle et coercitive dans son opération. Mais cela ne vise que les malfaiteurs, le gouvernement lui-même étant par ailleurs aussi capable de bonté, de bienveillance et de charité qu'une société plus privée. Ils se trompent faiblement, ceux qui pensent que le gouvernement n'a d'autre usage que la correction, qui en est la partie la plus grossière. L'expérience quotidienne nous dit que le soin et la réglementation de bien d'autres affaires, plus douces et quotidiennement nécessaires, compose de beaucoup la plus grande part du gouvernement, et qui auraient dû suivre le peuplement du monde même si Adam n'était jamais tombé, et qui continueront parmi les hommes sur la terre jusqu'aux plus hautes réalisations auxquelles ils pourront parvenir par la venue du bienheureux second Adam, le Seigneur venu du ciel. Voilà, en général, sur l'origine et la fin du gouvernement. Quant au cadre et modèle particulier, il me conviendra d'en dire peu. Je ne trouve pas de modèle au monde que le temps, le lieu et certaines urgences singulières n'aient nécessairement modifié, et il n'est pas facile d'élaborer un gouvernement civil qui serve également à tous les lieux. Je sais ce que disent les divers admirateurs de la monarchie, de l'aristocratie et de la démocratie, qui sont le gouvernement d'un seul, de quelques-uns et de plusieurs, et qui sont les trois idées communes du gouvernement lorsque les hommes discourent sur ce sujet. Mais je choisis de résoudre la controverse par cette petite distinction, qui appartient aux trois. Tout gouvernement est libre pour le peuple qui vit sous lui, quel qu'en soit le cadre, lorsque les lois gouvernent et que le peuple est parti à ses lois. Au-delà de cela, c'est tyrannie, oligarchie et confusion. Mais tout bien considéré, il n'y a guère un cadre de gouvernement au monde si mal conçu par ses premiers fondateurs que, entre de bonnes mains, il ne fonctionnerait pas assez bien. Et l'histoire nous dit que le meilleur, entre de mauvaises, ne peut rien faire de grand ni de bon. Ainsi, les gouvernements dépendent plutôt des hommes que les hommes des gouvernements. Que les hommes soient bons, et le gouvernement ne peut être mauvais. S'il est mauvais, ils le guériront. Mais si les hommes sont mauvais, que le gouvernement soit si bon qu'il puisse être, ils s'efforceront de le fausser et de le gâter à leur profit. Ce qui fait une bonne constitution doit la conserver, à savoir des hommes de sagesse et de vertu, qualités qui, ne descendant pas avec les héritages mondains, doivent être soigneusement propagées par une éducation vertueuse de la jeunesse, pour laquelle les âges à venir devront plus aux soins et à la prudence des fondateurs et de la magistrature successive qu'à leurs parents pour leur patrimoine privé. Nous avons, par respect pour Dieu et avec bonne conscience envers les hommes, au mieux de notre compétence, conçu et composé le cadre et les lois de ce gouvernement en vue de la grande fin du gouvernement, maintenir l'autorité dans le respect du peuple, et garantir le peuple contre l'abus de l'autorité, afin qu'ils soient libres par leur juste obéissance, et que les magistrats soient honorables par leur juste administration, car la liberté sans obéissance est confusion, et l'obéissance sans liberté est esclavage. Pour porter cette égalité, cela tient en partie à la Constitution et en partie à la magistrature. Là où l'une ou l'autre fait défaut, le gouvernement sera sujet à des convulsions, mais là où toutes deux manquent, il devra être totalement renversé, et là où elles se rencontrent toutes deux, le gouvernement a chance de durer, ce que je prie humblement et espère que Dieu voudra bien faire échoir à cette Pennsylvanie. Amen. Parmi les lois convenues et publiées avec le cadre de gouvernement, deux ou trois présentent un caractère religieux, que toutes les personnes vivant dans la province qui confessent et reconnaissent l'unique Dieu Tout-Puissant et Éternel comme Créateur, soutien et souverain du monde, et qui se tiennent en conscience obligées de vivre paisiblement et justement en société civile, ne seront en aucune manière inquiétées ni lésées pour leur persuasion ou pratique religieuse en matière de foi et de culte, et qu'elles ne seront contraintes en aucun temps de frais. Que selon le bon exemple des premiers chrétiens, et conformément à l'aisance de la création, chaque premier jour de la semaine, appelé le jour du Seigneur, les gens s'abstiendront de leur labeur quotidien ordinaire, afin de mieux se disposer à adorer Dieu selon leur compréhension. Que de même qu'une administration négligente et corrompue de la justice attire la colère de Dieu sur les magistrats, de même la sauvagerie et le relâchement du peuple provoquent l'indignation de Dieu contre le pays. Par conséquent que toutes ces offenses envers Dieu, telles que jurer, maudire, mentir, parler de façon profane, l'ivrognerie, le fait de porter des toasts, drinking of healths, les paroles obscènes et plusieurs autres actes scandaleux nommément cités, les trahisons, les dissimulations, misprisions, les duels, les meurtres, les... Ce système fut signé par le gouverneur et les hommes libres au troisième mois de 1682. Dans ce préambule, Penn fit une déclaration profonde, la grande fin de tout gouvernement est de maintenir l'autorité dans le respect du peuple, et de garantir le peuple contre l'abus de l'autorité, afin qu'ils soient libres par leur juste obéissance, et que les magistrats soient honorables par leur juste administration, car la liberté sans obéissance est confusion, et l'obéissance sans liberté est esclavage. Toutes les prisons devaient être des maisons de travail et des lieux de réforme et de propreté, au lieu des cachots pestilentiels d'oisiveté, de saleté et de vice croissant où les Quakers avaient tant souffert de misère et de mort en Angleterre. On tenta d'abolir les avocats et de diminuer les procès en prévoyant que chacun pourrait plaider sa propre cause, et comme le dit l'ancien adage, avoir un sceau pour client. Le procès devant jury fut soigneusement établi, mais aucun serment n'était exigé. Tous les enfants devaient apprendre un métier utile, pratique que les Quakers défendaient depuis longtemps, mais qu'ils n'avaient pas pu imposer à tous leurs membres, et ils eurent tout autant d'insuccès à l'imposer par la loi en Pennsylvanie. La liberté religieuse était, bien entendu, établie dans ces lois, mais seulement au sens où on l'entendait alors parfois, et elle était limitée à ceux qui croyaient en Dieu. Les athées ne relevaient pas de sa protection. De même, nul ne pouvait exercer une fonction publique dans le gouvernement s'il ne professait pas la foi en Jésus-Christ. Ce n'était pas la première consécration de la liberté de conscience dans les colonies. Elle avait été établie par la charte du Rhode Island en 1663, dans East Jersey en 1655, par la constitution carolinienne de Locke de 1669, et dans l'Ouest Jersey en 1677, et d'une manière plutôt plus libérale et plus étendue que Penn ne l'établit, car elle n'était pas limitée à ceux qui croyaient en Dieu. Les Quakers étaient très opposés à la peine capitale, en particulier à l'application massive de la peine de mort pour des délits mineurs, qui prévalait à cette époque en Angleterre. En conséquence, on ne trouve dans le code de peine que la trahison et le meurtre jugés dignes de mort, et les biens des meurtriers, au lieu d'être confisqués au profit de l'État, étaient partagés entre les plus proches parents de la victime et ceux du criminel. Les biographes de Penn lui ont généralement attribué le mérite de toutes ces idées très avancées, mais c'est à peine juste, car c'étaient les idées des Quakers, et il ne faisait que tenter de les mettre en pratique. Il existait aussi des lois qui reflétaient les convictions religieuses des Quakers. Les jurons, les blasphèmes, l'ivrognerie, les toasts à la santé, les cartes, les dés, les jeux d'argent, les pièces de théâtre, les crêles et le mensonge dans la conversation étaient strictement interdits. Ayant achevé la Constitution à l'été 1682, il était prêt à mettre les voiles pour son nouveau domaine. Astérisque, la Constitution de Penn a servi de fondement à la Constitution ultérieure des États-Unis. Les idées incarnées dans les deux constitutions ont été formulées par des hommes dont l'inspiration venait du Christ ressuscité au-dedans d'eux. Chapitre X. Première visite en Pennsylvanie. Enfin, à l'été 1682, un peu plus d'un an après avoir reçu sa charte, il était prêt à partir pour la Pennsylvanie. À sa femme et à ses enfants, il laissa une remarquable lettre d'adieu, texte intégral disponible, pleine d'amour, de sagesse et s'exprimant avec autorité. Il parle avec une réalité et une franchise qui semblent montrer que sa nature était la plus forte et à son meilleur lorsqu'elle était éveillée par la tendresse et l'affection. De plusieurs passages de la lettre, on peut déduire qu'il avait appris par expérience que ce côté tendre était aussi son côté faible et qu'il voyait le danger de gaspiller son énergie dans des amitiés. Gardez-vous des amitiés envahissantes. Tenez-les à distance, car c'est abandonner aussi notre force et notre personne à la possession d'un autre. Et ce qui peut paraître séduisant au début peut se révéler, à la fin, un joug et un fardeau trop dur et trop lourd. Conservez donc l'empire sur vous-même, et que vos enfants, les bonnes réunions et les amis soient la joie de votre vie. Un autre passage est intéressant, non seulement par la manière naturelle dont il est formulé, mais parce qu'il nous donne un aperçu de sa femme, la jolie Gully qu'il avait épousée avec tant d'amour 10 ans auparavant. Honorez-la donc et obéissez-lui. Mes chers enfants, comme à votre mère et à l'amour et la délice de votre père, aimez-la aussi car elle a aimé votre père d'un amour profond et droit, le choisissant au-dessus de tous ses nombreux prétendants. Et bien qu'elle soit de constitution délicate et d'esprit noble, elle s'est abaissée jusqu'à la plus extrême tendresse et aux soins pour vous, accomplissant pour vous dans votre petite enfance les actes de service les plus simples, comme une mère et comme une nourrice aussi. Je vous en conjure devant le Seigneur, honorez et obéissez, aimez et chérissez votre chère mère. Nous apprenons aussi, par cette lettre, que Penn avait d'importantes traites arrivant à échéance. Sa famille et les projets publics auxquels il se consacrait absorbaient plus que son revenu pourtant assez élevé. Il exhorte donc sa femme à être économe. « Souviens-toi, dit-il, de l'exemple de ta mère, lorsque l'esprit public de ton père avait dilapidé son patrimoine, ce qui est mon cas. » Le 30 août, il s'embarqua à Deal à bord du Welcome avec environ 100 passagers. Environ 8 semaines plus tard, le 24 octobre, il se trouvait à l'intérieur des caps du Delaware. Le voyage avait été long et, comme il arrivait assez fréquemment à cette époque, la variole se déclara parmi les passagers et 30 moururent en mer. Le Welcome mit 3 jours à remonter le Delaware jusqu'à Newcastle, qui était le principal établissement de la région. Ce lieu se trouvait sur le territoire accordé à Penn par le duc d'York, et c'est ici que les agents du duc transférèrent, au nom de leur maître, le titre de propriété au nouveau possesseur par l'ancienne cérémonie du gazon branché haut, coutume longtemps observée en Pennsylvanie, et qui signifiait que l'ancien propriétaire, en remettant au nouveau un morceau de gazon, un petit bout de branche et une coupe d'eau, lui cédait la pleine possession de tout ce que l'on pouvait trouver sur le terrain en question. Après cette cérémonie, Penn remonta encore la rivière jusqu'au petit village d'Upland, où son agent, William Markham, l'attendait. Lorsqu'il eut débarqué à Upland, il demanda à son ami Pearson de choisir un nom pour la ville, et Pearson, originaire de la ville de Chester en Angleterre, donna à l'établissement le nom de cette localité anglaise. De Chester, William Penn commença à explorer ses nouvelles possessions. Il y trouva un sol riche, des bois et des champs remplis d'animaux et d'oiseaux de toutes sortes, et un large fleuve avec de nombreux affluents qui s'enfonçaient loin à l'intérieur de sa province. Le long du Delaware, les oiseaux sauvages abondaient, et chaque jour des Indiens apportaient des cerfs des forêts et les vendaient aux colons contre de petites quantités de tabac. Les colons, qui vivaient déjà dans les clairières le long du Delaware, étaient principalement des Suédois et des Hollandais, avec quelques Anglais, qui pêchaient dans le fleuve, chassaient dans les baies et faisaient paître leur bétail dans les prairies ouvertes le long des rives. Penn fut conduit à la rame, dans une barge, en remontant le Delaware, au-delà d'un endroit appelé Olticum, qui avait été la résidence du gouverneur suédois, puis au-delà du point où le Schuylkill rejoint le Delaware à l'emplacement de l'actuel League Island, et jusqu'à une portion où le Delaware se rétrécissait et s'approfondissait, et où se trouvait un terrain élevé offrant une bonne façade pour les bateaux à fort tirant d'eau. Là, la rive était couverte de pins, de châtaigniers, de noyers, de chênes et de lauriers, et un petit ruisseau se jetait dans le fleuve. C'était l'endroit que les commissaires de Penn avaient choisi pour l'emplacement de sa ville. Il débarqua à l'embouchure du petit cours d'eau appelé Duck Creek, qui aujourd'hui s'écoule dans l'égout sous Duck Street, sur le front de mer de Philadelphie, et où se trouvait alors une taverne en rondin connue sous le nom de « The Sign of the Blue Anchor ». La tradition rapporte que des colons anglais et des Indiens étaient sur la rive pour saluer le nouveau propriétaire, et qu'il s'assit avec les Indiens et mangea le romani et les glands rôtis qu'ils lui offrirent. Puis ils se livrèrent à quelques jeux athlétiques pour le divertir, et Penn lui-même participa à un concours de saut. La tradition veut qu'il ait sauté plus loin que le meilleur des indigènes. Parti Yves de Penn, le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.